Pardon, un destin magnifique t'attend.
Hein? Chris, il est quelle heure, là? 6 heures? Non, mais t'es pas malade, Gandalf. C'est qui t'a dit de rentrer dans ma maison?
Frodon, tu dois prendre l'anneau.
Que sais-tu que baves, là, toi?
L'anneau! Tu dois l'amener où il a été créé, dans le monde de la damnation, pour le détruire à jamais.
Hey, t'es mes notes, vieux schnock. Tu es en train de me dire que tu viens me réveiller en plein lendemain de brosse pour me dire qu'il faut que j'aille te faire une commission à 1000 km d'ici?
Frodon, tu auras à traverser les cavernes de Barak-Dûn, les marais de la mort, affronter la reine des araignées et des hordes d'orques.
Hey, t'as vraiment perdu l'esprit? Déjà c'est nil, mon Gandalf? Puis pourquoi je ferais ça?
Que dirais-tu de posséder la puissance maximale?
Comment ça, la puissance maximale?
Cet anneau a été créé par le Seigneur des Ténèbres, Sauron le Terrible. Le détenteur de l'anneau possédera l'immortalité, pourra lancer des bombes nucléaires par les yeux, et techniquement, toutes les femmes seront à ses genoux.
Hé, hey, minute! Laisse-moi donc essayer ça!
Halte le malheureux! Si tu mets l'anneau autour de ton doigt, c'est la destruction de notre monde qui s'en suivra fatalement!
Attends minute. T'es en train de me dire que si tu veux que je trimballe la puissance maximale en cas de fichier autour du cou comme une décoration puis je pourrais jamais l'utiliser?
Ben ouais.
Hey, j'ai une meilleure idée. Sac ton cas de genoux!
De la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, et bienvenue à cette autre édition de votre émission hebdomadaire sur le monde ludique et sur, bien sûr, la culture geek. Puissance maximale sur les ondes de CKIA, aujourd'hui lundi 15 septembre 2008, lendemain d'une nuit où il a plu incroyablement, vraiment, les gens peut-être même pas dormi. Je sais pas si, chers auditeurs, vous êtes réveillés durant la nuit à cause de ça, mais en fin de compte, ici le soleil est de retour présentement et on devrait avoir une semaine quand même pas si pire.
Et on salue Monsieur de Soleil.
Eh oui, on est très content qu'il soit là. Vincent Langlois au micro, en compagnie de François Gécouillard.
Salut, jeune gens.
Et fin de compte, François, on a une bonne émission aujourd'hui encore, comme à toutes les semaines. De quoi vas-tu nous parler cette semaine?
Eh bien, on va avoir une petite entrevue avec Monsieur Despenou. C'est un gars de Cocktail Games qui était l'invité des journées ludopathiques de Grande Bay. Il va nous parler un peu de son entreprise et de tout ce qui vient avec.
Excellent. Il y a Guillaume Forin qui va se joindre à nous d'ici quelques minutes. Et moi, je débute tout de suite avec quelques petites actualités. En fin de compte, j'ai fait une recherche au niveau des actualités cette semaine.
Et dis-moi, Vincent, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine?
Mon Dieu, bien sûr, tu me connais. C'est certainement au niveau des jeux vidéo que j'ai plus regardé parce que côté jeu de table ou quoi que ce soit, c'est pas très très mon dada. Eh bien, quelques petites nouvelles. Premièrement, on sait que Nintendo a toujours des façons spéciales d'amener c'est tout en fin de compte ce que cette compagnie-là crée avec la Wii. Bon, on a vu que c'était vraiment spécial par rapport aux autres développeurs avec la Wiimote, en fin de compte, tout ce qui pouvait être jeu et bouger en même temps. Eh bien, imagine-toi, mon cher François et chers auditeurs, que la Nintendo, en fin de compte, Nintendo a développé développer un petit gadget qui s'appelle le DS Accelerometer. En fin de compte, ce petit gadget-là, ça va se placer sur la Nintendo DS. Donc, Nintendo ont eu cette idée-là depuis qu'ils ont fait la version Guitar Hero on Tour. Il y avait apporté un petit accessoire sur la DS qui permettait de jouer les notes de la musique. Et depuis ce temps-là, ils ont pensé à plein d'autres affaires à mettre sur la DS. Donc, on a l'accelerator. Qu'est-ce que ça va être, ça, en fin de compte?
L'accelerator. Donc, pour les enfants à la maison qui ne connaissent pas l'anglais, ça veut dire accélérateur.
Eh oui. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ben, ce qui va arriver, c'est que ça va être un petit gadget qu'on va mettre sur la DS. Et on va pouvoir bouger sa DS de façon latérale, de façon verticale, et ça va changer les choses dans le jeu. Donc, bien sûr, on avait la Wiimote qui permettait ça maintenant, et le DS pourra faire la même chose.
Oh.
Le premier jeu qui va être créé à partir de ce petit gadget-là, ça va être le jeu de Tony Hawk. Tout le monde connaît Tony Hawk, les différentes versions de jeux de skateboard. Alors, Tony Hawk Motion sera le premier titre qu'il va y avoir sur la DS avec ce nouveau gadget qui
donc
permettra sûrement...
la DS pour pouvoir jouer avec son skate, dans le fond.
Tout à fait. En fin de compte, j'imagine que si on déplace la DS de gauche à droite, on pourra justement faire tasser notre joueur de gauche à droite sur sa planche à roulettes,
okay.
Et toutes ces choses-là. Donc, c'est quand même bien. C'est un nouveau gadget qui permet de profiter de nouveau de sa Nintendo DS, quand même, qui est une console qui est en vente depuis longtemps. C'est
ouais,
fun
c'est
quand
vrai.
Même que Nintendo puisse sortir des choses comme ça qu'on peut rajouter.
Ouais.
Donc, ça donne une nouvelle vie un peu à ta console. C'est quand même intéressant. Rock Band.
Qu'est-ce qui se passe avec Rock Band?
Rock Band, il y avait une petite nouvelle qui disait Rock Band en télé-réalité.
Oh!
Je sais pas si vous êtes des amateurs de télé-réalité, mais moi, c'est peut-être mon petit côté geek. Je suis un amateur de télé-réalité. Et non pas parce que
c'est vrai geek.
Eh mon Dieu, non pas parce que c'est ça apporte des choses à ma vie, mais vraiment, c'est parce que des fois, ça me tente d'être devant la télé et de ne rien faire.
Oui, de ne rien
penser. En plein ça. Et ça nous permet ça. Parce que moi, je suis quand même un grand amateur de Survivor, qui était pas mal une des premières séries de télé-réalité, en fin de compte, qui a été développée par Mark Burnett. Je ne sais pas si vous connaissez Mark Burnett. C'est lui qui a développé Survivor, The Apprentice, l'Echo Challenge.
Fait que là, tu me dis qu'ils vont mixer la télé-réalité avec Rock Band.
Mais en fin de compte, de ce que j'ai vu, c'est que MTV est à la recherche de 4 concurrents, 4 personnes qui feraient partie d'une mission de télé-réalité sur Rock Band. Et ce serait pour vivre justement l'ultime expérience Rock Band.
Okay.
L'ultime expérience de ce que c'est être une star de rock.
Star.
Sauf que dans le communiqué, pas plus que ça.
Oh.
Vous êtes intéressé? Alors, envoyez-nous votre nom, tel numéro, tel fax,
il y a
tel
un chèque.
Numéro. Et pas de chèque présentement, qu'est-ce qui va arriver? Alors là, ça a été vraiment la sortie des rumeurs. À quoi ça va servir? Comment ça va être développé cette série-là?
Okay.
Et la rumeur qui venait plus, c'était, bon, quel sera le concept de l'émission? Est-ce qu'on va faire vivre la vraie vie de Rockstar aux joueurs de Rock Band?
Pourquoi
donc,
pas?
On va développer peut-être un groupe à partir de ce jeu-là, et on va les faire vivre vraiment ce que c'est à jouer devant, peut-être dans un petit club au départ, après ça, vivre de ce que c'est dans un grand aréna.
Donc, arrête de dire, pogner 4 geeks là, avec les lunettes boutonneux et tout, puis les lancer dans les bars et leur faire expérimenter le nightlife et la haute vie dans Las Vegas.
Ben, je vais t'avouer, franchement, il va sûrement y avoir une sélection de concurrents. Ça me surprendrait bien gros qu'ils se sélectionnent.
J'ai oublié que c'était de la télé, ouais, effectivement,
ouais.
Les candidats vont sûrement être très
beaux.
Oui,
ben c'est ça, les candidats vont être parfaits, en fin de compte, avec un six-pack et les pectoraux bien développés, des muscles. Alors, ça sera pas nous, en tout cas, ça sera pas moi. Et tout simplement pour dire que, en fin de compte, on imagine que ça va être ça. Ils vont leur faire vivre ce que c'est vraiment être rockstar.
Ah, ben ça serait drôle.
Et vivre selon la devise de sex, drug and rock and roll, disons.
Okay, okay.
On imagine que ça va être ça. Peut-être pour leur faire vivre les bons côtés et les mauvais côtés. Mais bon, où s'arrête la télé-réalité, c'est incroyable. Incroyable, je n'en reviens pas encore d'avoir trouvé cette nouvelle-là. En fin de compte, juste pour terminer, on sait que la guerre des consoles est relancée de plus belle. Microsoft a baissé ses prix de la Xbox dernièrement.
Ouais, oui.
Et bon, ça a l'air qu'ils ont vendu de la console avec ça, c'est certain. On baisse les prix. Et on dit même que d'ici Noël, Microsoft serait en avance au niveau de ce qui est de vendre, oui, d'ici Noël, mais également au niveau de justement... non seulement des ventes de la console, mais des jeux qui vont y avoir avec ça. Parce que, ils ont quand même des sorties de jeux assez intéressantes, et pour ceux qui ont des consoles Xbox, j'ai ressorti 5 jeux, en fin de compte, que j'ai trouvé aussi également dans une nouvelle, 5 bonnes raisons d'acheter la Xbox 360 ou d'être détenteur d'une Xbox 360 d'ici décembre prochain. Une des raisons, moi, le jeu Fable 2, on en a parlé déjà, le jeu, en fin de compte, qui est un jeu inspiré des jeux de rôle, mais en même temps on vit des aventures justement dans un monde fantastique. Notre personnage évolue et vieillit tout au long de l'aventure. Un très bon jeu. Grand Theft Auto, on en parle encore, Grand Theft Auto 4. Microsoft avait signé une entente avec les gens de Rockstar pour avoir du contenu téléchargeable. Donc, il y aura de nouvelles aventures d'ici décembre qui seront seulement accessibles aux détenteurs d'une Xbox.
Et qu'on pourra se procurer avec des moyennant des pièces sonnantes et trébuchantes.
Et c'est ça. Tout à fait. Fallout 3.
Oui.
Le monde l'attend. Moi, j'ai vu une vidéo dernièrement. En fin de compte, il va sortir sur multiconsole. Sauf qu'encore là, Microsoft s'est entendu avec les gens de Fallout, donc Bethesda, pour avoir du contenu téléchargeable exclusif.
Bon, voilà.
Mais vraiment, ça, c'est un jeu que j'attends. J'ai vraiment hâte de le jouer. J'ai vu quelques images. Allez sur Internet, allez voir ça. Ça va être incroyable, le monde qui va se développer autour de ça. Left 4 Dead, qui va être une petite version Microsoft de jeu de horreur et d'aventure à style Resident Evil. Ça devrait être quand même intéressant. Et la dernière raison, et non la moindre, Gears of War. Gears of War 2. Qui est une exclusivité Xbox depuis longtemps. Donc, 5 bonnes raisons d'avoir une Xbox. On sait que il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ces consoles-là au niveau de le Ring of Death, en fin de compte, la fameuse lumière rouge qui allume.
Ah oui,
encore dernièrement, il y a quelqu'un qui me parlait de ça, que ça l'avait pété la semaine passée. Alors,
Ben oui, les enfants à la maison qui voulaient acheter un Xbox 360, parlez-en à Vincent Landlois, ça a tendance à surchauffer et briser.
Eh oui, moi j'ai peut-être, en tout cas, je suis vraiment pas chanceux avec ça, mais bon, on verra, là, j'en suis à ma 5e, et présentement elle fonctionne, mais j'avoue que j'ai un peu peur de faire fonctionner de temps en temps. Donc, je me concentre sur les autres console présentement. Alors, ça faisait le tour de l'actualité, en fin de compte. Des nouvelles qui ont retenu mon attention, bien sûr, c'est le monde des jeux vidéo. Alors, on va y aller en musique?
On va en musique, on va écouter. Donc, la première pièce, c'est toujours celle de Musax. Musax avec un Z et un X de notre correspondant en France, Yannick. Donc, aujourd'hui, ça va être une pièce de Final Fantasy, mais de toute façon, je vais vous laisser lui-même la présenter.
Développé par Square, Final Fantasy VII est un énorme succès planétaire avec presque 10 millions de jeux vendus. Le 7e volet de la série des Final Fantasy permet aux jeux vidéo de rôle de sortir des frontières japonaises et ainsi conquérir le monde.
Jaune Jaune aussi, écoute, puissance maximale.
Pauvre Jaune Jaune. Mon Dieu, ça fait longtemps que je l'ai vu.
Le poulet alcoolique.
Eh oui, en fin de compte, sur les ondes de CKIA, toujours, comme on disait, oui. Puissance maximale, votre magazine radiophonique hebdomadaire sur le monde des geeks et le monde des jeux. En compagnie de Guillaume Forand. Salut Guillaume.
Salut.
Alors Guillaume, aujourd'hui, tu vas nous parler de deux choses. On va commencer avec Warhammer.
Oui, je vais parler du jeu Warhammer Online, donc le MMO sorti... basé sur le jeu à ce moment-là de Warhammer Fantasy, donc le jeu fantastique de Warhammer.
En fait, on pourrait même dire l'univers de Warhammer, hein, parce qu'il y a les figurines, il y a les jeux de rôle, plein de bouquins.
Effectivement, c'est un monde qui est très développé. Ils ont la version médiévale fantastique, la version futuristique aussi. Mais actuellement, j'ai eu la chance de pouvoir essayer le jeu Warhammer Online, bien sûr un bêta, donc pendant une durée limitée, que moi et même ma femme, on a joué à tous les deux.
D'accord, en fin de compte, le jeu n'est pas sorti, c'est vraiment le bêta, tout simplement?
Le bêta, c'est ça, donc sans trop rentrer dans les détails, parce que bien sûr, on est limité sur qu'est-ce qu'on peut dire, mais dès qu'un bêta est ouvert, quand même, il y a certaines informations qu'on peut parler sans trop rentrer dans les détails, sans avoir de problème avec la compagnie.
De toute façon, le jeu est sur le point de sortir, il va sortir ce mois-ci.
Effectivement, il sort ce mois-ci, donc c'est dans pas grand temps, j'ai pas la date exacte. Mais c'est ici la fin du mois, si je ne me trompe pas, qui sort officiellement. Donc, Warhammer Online. Le jeu de base, c'est un jeu médiéval fantastique. Donc, on a des nains, on a des orques, on a des elfes. On a l'univers de Warhammer. L'univers de Warhammer, il faut dire, c'est un univers qui est plus sombre, plus sanglant, plus violent un peu. Il s'est toujours dit de cette façon-là. Les personnages souvent meurent d'une mort atroce dans le jeu de rôle, entre autres. C'est pas un univers gentil, un petit peu comme d'autres peuvent voir dans certains autres mondes. Un petit peu des fois comme Donjons Dragons, qui est plus...
C'est plus du high fantasy contre du low fantasy, ce qu'est Warhammer.
Effectivement. Bon, Warhammer en même, c'est-tu bon ou c'est-tu pas bon? C'est sûr, certain qu'il y a toujours une question de goût personnel là-dedans. Quand j'ai installé le jeu, je l'ai parti, la première chose que j'ai remarqué, c'était les graphiques. Les graphiques ne sont pas mauvais. Par contre, je m'attends mieux que ça pour un jeu qui sort cette année.
En 2008.
Il faut dire que c'est un jeu qui risque de contrebalancer World of Warcraft, donc faut pas que ça soit rien. Il faut que ça soit vraiment très fort parce que...
Ben, côté graphique, ça ressemble beaucoup à Warhammer Online, sauf que personnellement, j'ai trouvé qu'il manquait de texture, un peu de détails.
Okay.
Comparé à des jeux plus récents comme Age of Conan ou même comme Seigneur des Anneaux Online, où que ces jeux-là ont beaucoup plus de détails. C'est sûr, certains, ça demande quand même des machines généralement un peu plus performantes pour pouvoir rouler ces jeux-là. Warhammer Online, comme War, se joue sur à peu près n'importe quel ordinateur. Sauf que j'ai deux ordinateurs chez nous. J'en ai un qui a une carte vidéo 128 MB, donc qu'est-ce qui est, je vous dirais, le bas de gamme maintenant pour le gaming en général. J'étais même pas capable de le rouler sur cet ordinateur-là. Il me disait que j'avais pas les prérequis. La version officielle va-tu permettre de pouvoir jouer avec une carte vidéo de 128 MB? On ne sait pas à ce moment-ci. Par contre, mon autre ordinateur qui a une carte vidéo 512 MB, ça roulait très très bien. Par contre, le jeu, même au maximum, je le trouvais moins beau que d'autres jeux.
Est-ce qu'on veut dire au niveau graphique que ça pourrait ressembler à ce qui était, par exemple, le Diablo 2 quand c'est sorti? Là,
Non, pas tant que ça. Ça ressemble beaucoup à du WoW, comme que WoW est actuellement. Donc, il y a des détails, mais ils ont réduit certaines qualités quand même au niveau des détails pour rendre ça plus accessible pour les gens à ce moment-là, qui peuvent jouer sans avoir vraiment qu'est-ce qu'on appelle du lag sur les jeux.
Okay.
Bon, ça, c'est la première chose qui m'a sauté à l'œil en ouvrant le jeu. Je joue à d'autres jeux où est-ce que les graphiques au minimum, c'est plus beau que ça, je trouve, personnellement. Mais
J'avoue que c'est quand même décevant quand on s'attend à quelque chose. On a plein d'autres jeux qui sortent autour. Je fais seulement le parallèle avec Grand Theft Auto quand c'est sorti en avril. Moi, je me doutais que ça allait être ça, tout simplement, parce que Rockstar, au niveau de ce qui est les personnages, la définition des personnages, comment qu'ils les font, je trouve qu'ils ne l'ont pas du tout. Si on compare avec toutes les autres série de jeux qui sont sortis avant et même après. Donc, je me doutais, mais c'était décevant, justement.
Ben, c'est ça. Donc, la première impression que t'as, c'est, il manque quelque chose déjà là en partant. Bon, je me suis dit, je vais quand même essayer. On peut pas juste se fier à des graphiques. Il y a des très bons jeux qui ont des graphiques moins bons, mais le jeu, il est bon. Il était intéressant.
C'est vrai.
Donc, j'ai commencé à jouer au jeu un peu. Qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est sûr, certain que c'est une version de bêta. Donc, il va sortir des patchs, des ajustements dans les mois, les semaines qui vont suivre. Côté animation, il manquait encore un petit peu de détails. Donc, les animations, des fois, étaient saccadées un peu, ou même, on voyait les personnages qui font, on dit du téléport. Donc, il avance, il est plus là, puis il est rendu à côté de toi.
Ouais, c'est-à-dire que c'est du lag, en fait.
C'est du lag un peu, mais c'était pas lagué où est-ce que le combat avait pas lieu, où est-ce que les gens se rapprochaient pas correctement. C'est comme s'il y avait des bouts d'animation où est-ce que le personnage était supposé, exemple, faire un petit sprint à la fin avant d'arriver à toi.
Okay.
Mais ce bout d'animation-là avait pas lieu.
Okay.
Bon, donc déjà là, ça part mal un peu. Mais j'ai commencé à jouer. J'ai dit, bon, on va essayer quand même, on a un bêta. J'ai joué, un personnage surtout que j'ai monté environ 6 niveaux, donc pas eu le temps de jouer beaucoup.
C'est quoi ton personnage que t'as monté?
J'ai joué un nain engineer, donc un nain ingénieur que tire avec un fusil et construit des tourelles pour m'aider à me défendre et à tuer mes ennemis.
Okay.
Le jeu en tant que tel, les combats sont rapides. Sont simples, c'est pas extrêmement compliqué, un petit peu comme WoW, donc très très simple.
Okay, à WoW, il y a à peu près 18 000 boutons qu'on peut toucher. Là,
c'est sûr, certain qu'il y a beaucoup d'optimisation alentour qu'on peut faire, mais le jeu de base, il est simple, il est facile d'apprentissage.
Okay.
Les quêtes, qu'est-ce qui est intéressant, surtout dans le jeu-là, que j'ai bien aimé, c'est les quêtes, non seulement sont généralement bien décrites, qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a un lore book, donc comme un livret qu'à fur et à mesure qu'on découvre des choses, donc qu'on rajoute entre autres des quêtes, donne toutes les informations sur la quête, mmh. avec les détails, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là. Et l'avantage, un très bon avantage que j'ai trouvé dans le jeu, c'est que dès qu'on a une quête et on rouvre notre carte pour nous situer dans le monde, il nous indique dans quelle zone se situent les quêtes. Okay. Donc, on n'est pas obligé de courir ou de se promener puis passer 3 heures dans le mauvais coin de la carte puis pour chercher un objet quand c'est dans un autre coin.
Mmh.
Et l'autre avantage, c'est qu'une fois que la quête est accomplie, il nous indique où aller pour remettre la quête. Donc, si on se souvient pas de quel personnage qu'on a eu la quête, il nous indique où aller pour revenir la retourner. Qu'est-ce qui est très, très bien. Dans d'autres jeux, des fois, c'est pas évident. De toute façon, les gens s'en vont sur des sites web pour savoir quoi faire, où aller et où ramener la quête. Mmh. Donc, ils ont simplifié ça, ils l'ont intégré dans le jeu, qu'est-ce qui est une très, très bonne chose, tant qu'à moi, pour ce genre de jeu.
Ça simplifie toute la patente.
Au niveau de la jouabilité, Guillaume, ben, en fin de compte, au niveau du jeu, parce que là, tu parles de quête, tu parles de combat, pour les gens qui ne sont pas initiés, mais qui seraient intéressés à découvrir ce monde-là, est-ce que c'est un jeu en partie de combat, ou un jeu seulement de quête, où les combats se font dans les quêtes? Comment ça fonctionne, en fin de compte, un jeu de ce type-là, en ligne, avec les joueurs?
Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs sortes de quêtes. C'est sûr, certains qu'il y a toujours les quêtes typiques de tuer certains nombres de monstres, et après ça, d'aller revoir la personnage qui nous a dit d'aller tuer ces monstres-là pour recevoir notre récompense. Il y a aussi les quêtes où est-ce qu'on doit découvrir des choses ou aller chercher des objets spécifiques qu'exemple qu'un personnage qui a un nom, donc pas nécessairement un monstre générique, a sur lui. Donc, d'aller voir cette personne-là, soit de le tuer ou d'y parler, et ça continue la chaîne. Donc, c'est un petit peu comme les vieux livres dont vous êtes le héros, avec du combat, bien sûr, du point A au point B.
Est-ce que c'est possible qu'on parte, par exemple, en équipe, qu'on fasse une quête en équipe? Si on est, par exemple, deux joueurs à la maison, deux maisons différentes, on est deux amis, on se branche ensemble, c'est possible de faire
oui,
une quête ensemble?
Effectivement. Donc, le jeu, quand même, est propice pour faire qu'est-ce qu'on appelle des groupes. Donc, former des groupes ensemble de plusieurs personnes. Une chose qui est intéressante aussi à ce sujet-là, eux, dans le jeu, au lieu de faire qu'est-ce que souvent les quêtes, on appelle des raids, donc de former des groupes fixes de 6, 12, 24, 30 personnes, ils appellent ça des quêtes publiques. Donc, on rentre dans une zone et tout le monde automatiquement a accès à la quête. Dans ces quêtes-là, il y a souvent plusieurs étapes. Donc, la première étape, exemple, c'est, disons qu'on joue dans la partie où est-ce qu'il y a des nains, c'est de tuer 70 gobelins. C'est ouais. pas à toi d'être tué seul. Tout le monde qui est dans la section, à chaque fois qu'il tue un gobelin, c'est compté.
Ça s'étend jusqu'à un total de 70.
70.
Et c'est dans la culture des nains de tuer des gobelins. Hein. C'est
effectivement.
Sport national des nains.
C'est toujours le fun de tuer des gobelins. N'importe quel nain va pas vous le dire. Même les elfes aiment ça une fois de temps en temps. Donc...
Sauf que les nains et les elfes ne s'entendent pas toujours, je crois.
Ben, oh, Vincent, oui, tu fais preuve d'une bonne connaissance geek.
Hein, ça paraît-tu que j'ai joué, c'est la semaine passée, j'ai joué un bon petit jeu de Warhammer, en fin de compte, en groupe, là. Un jeu de rôle.
Ah oui, t'as joué un jeu de rôle?
Je me suis pas acheté un jeu de rôle, mais j'ai joué avec des gens que je connais. Alors, je me suis initié au jeu de rôle.
Tu vois, toi-même, tu connais, ça veut dire un peu le monde de Warhammer.
Ben, en fin de compte, quelque peu. J'ai eu le temps de m'initier pendant 2 heures avec un maître de jeu qui nous a bien fait ça. Mais, bon, quand même, j'étais initié avec les Baldur's Gate puis ces jeux-là, en fin de compte, qui sont sur ordinateur, qui sont sur console, tout simplement. Ça,
souvent, les elfes et les nains ont souvent des animosités un envers l'autre.
Mais dis-moi, Guillaume, dans le fond, généralement, là, ça veut dire que c'est décevant un peu quand même comme départ?
Ben, c'est décevant.
On parle de Warhammer Online.
Je m'attendais à plus. C'est sûr, certains côtés graphiques, il y a certaines choses qui ne sont pas encore bien développées, mais il y a quand même des bons aspects. C'est pas un jeu qui ne vaut pas la peine d'essayer. C'est sûr, certains, avant de lâcher, je suggère souvent, il va y avoir dans ces jeux-là des périodes d'essai de 7 jours ou de 10 jours qu'on peut essayer. Moi, je suggère. C'est ceux qui aiment le style de World of Warcraft, mais qui aiment bien l'univers de Warhammer. Le style de jeu devrait aimer quand même à ce moment-là. C'est pas une perte. mais je m'attendais un peu à plus du jeu, surtout avec les attentes qu'il y avait.
Moi, je comprends ça aussi, en fin de compte. Là, c'est certain qu'on s'attend à plus en 2008 d'avoir des graphiques extraordinaires. J'étais un peu de ce type-là, à être déçu automatiquement quand le jeu sortait et que c'était pas intéressant au niveau graphique. Sauf que, à un moment donné, j'ai commencé à penser que ça pourrait être intéressant. Certains jeux pourraient être intéressants. Et comme de fait, j'ai joué à des jeux qui, graphiquement, sont pas extraordinaires. Souvent des jeux de Wii. Mais au niveau de la jouabilité, ils te donnent plein de choses à faire, des choses intéressantes. Et bon, je pense que maintenant, faut pas vraiment s'arrêter. Oui, on peut mettre une note un petit peu plus basse à cause, ben, parce que c'est pas nécessairement 2008, tendance 2008 au niveau graphique. Mais quand la jouabilité vient d'un autre côté, je pense qu'on peut être émerveillé aussi par ce qu'on retrouve dans les jeux.
Effectivement, un jeu, c'est juste que la première impression qu'on a avec ces jeux de même, c'est le graphique. Que c'est la première chose qui saute à la vue, donc faut mettre ça de côté un peu pour pouvoir embarquer dans le jeu, mais je crois que ça vaut la peine quand même.
Excellent, merci beaucoup Guillaume, on va passer tout de suite en musique avant de revenir avec toi.
Ah oui, donc on va écouter une pièce de Esquivel. Écoute Guillaume, juste pour finir, moi je trouve que j'étais un petit peu déçu de ce que tu me dis, parce que moi j'étais un fan de la première heure là, de Warhammer Online, même qu'avant que ça soit repris par Mythic. C'était Climax qui faisait ça au tout début, la première version. Et puis moi, je suis un fan depuis ce temps-là. Là. Donc, ça fait très longtemps que j'attends après ce jeu-là. Et puis, j'avais un grand espoir que ça surpasse World of Warcraft. Là. Mais bon, tant pis, si ça le fait pas.
Mais c'est à essayer quand même. Ouais. C'est juste que côté graphique, faut pas s'attarder.
C'est sûr que je vais essayer. OK, donc Esquivel, un espèce de chanteur, un compositeur mexicain. Pour vous, mesdames, vous êtes à puissance maximale.
Bonjour, je suis Fredon et j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, toujours sur les ondes de CKIA, nous sommes en compagnie de François et de Guillaume. Guillaume, maintenant, en fin de compte, la saison des GN tire bientôt à sa fin. Et tu viens nous parler un peu des accessoires.
Oui, effectivement. C'est pas à cause qu'il reste, je vous dirais, un ou deux mois à la saison principale des Grandes Natures, parce que bien sûr, il y en a toujours pendant l'hiver à des endroits divers. Des endroits variés plutôt, parce que divers, ça vient redondant un peu. Mais à ce temps-ci de l'année, c'est l'Halloween qui commence à se préparer dans les magasins. Et quand on dit Halloween, magasins, on dit costume, on dit
masque de monstre,
accessoires, effectivement des masques de squelettes, de gobelins, de démonets, de petits diables. Et les endroits commencent à accumuler ces choses-là. Et il y a quelques endroits stratégiques où est-ce qu'on peut aller faire le tour pour se trouver des accessoires de costume pour pas trop cher. Un que beaucoup de gens connaissent, mais pas tout le monde, c'est les magasins du style Dollarama. Donc, tous les magasins, $1, $2, $3, on trouve des accessoires incroyables pour des prix ridicules. On trouve des masques à $1. On trouve des fois des crânes pour comme décoration.
Des caps,
des chapeaux de pirates, des chapeaux médiévales même aussi.
Souvent, c'est pas des sorbets de Camelot. Là. Souvent, c'est très beau. C'est des excellents masques. Là.
Oui, effectivement, c'est des masques que je vous dirais que dans d'autres magasins, on peut-être payé $10 pour ce masque-là. Même chose pour des petits coffres. J'ai fait une trouvaille la semaine passée. C'était un genre de petit étui, un cylindre avec un couvercle, dans le fond, intégré dedans, avec une petite...
Serrure,
oui. Pas une serrure, mais vraiment...
une fermeture.
Je vous dirais une planche mince qui courbe, puis on vient attacher avec un lacet. Mais ça a coûté $1. Si j'aurais voulu m'en faire une par un artisan, ça aurait été quelque chose comme $50 pour me faire ça.
D'ailleurs, le meilleur ami des participants des Grandes Natures, c'est le Dollarama.
Pas juste eux, mais c'est une bonne partie.
Alors, moi qui ne connais rien dans les grandeurs nature, même pas participé au dernier GN des Maiserais où on est allé, nous, puissance maximale, à quoi te sert ce fameux cylindre avec un couvercle dessus?
Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Une des possibilités qu'on peut faire avec, c'est, exemple, si on fait un marchand ou même si on fait juste quelqu'un qui va avoir du papier avec une plume ou un stylo, au lieu de traîner ça dans une bourse ou dans ses poches, on peut mettre ça dedans et on accroche ça à sa ceinture à ce moment-là et on trimballe notre papier et notre stylo et autres accessoires dedans au lieu d'avoir ça dans nos poches pour que ça devienne tout mouillé tout de suite ou tout déchiré.
D'accord, et ça fait vraiment un article qui s'agence bien au costume médiéval.
Effectivement.
Pour des gens portent.
Pour pas cher.
Aussi les bougies, aussi les petits livres pour écrire des sorts dedans.
Effectivement.
Les petits pots, les petits contenants pour lesquels on peut
faire
des potions magiques.
Tout plein d'articles de genre-là. Même récemment, je voulais me faire une canne à pêche en bambou. Des fois, il y a des petits lacs, des petits ruisseaux, on va aller à la pêche quand on joue un paysan ou quelque chose. Okay. Bon, je me suis dit, je vais aller à Rona, je vais aller m'acheter un pôle de bambou, ça m'a coûté $10, enfin, je m'achète genre de la corde à pêche, tout ce truc-là. Et je passe au Dollarama, canne à pêche en bambou, magique. $1.
Mais quel hasard!
Et je tombe vraiment de même dessus et je pourrais pas faire mieux. Pour moins cher, c'est impossible.
Mais c'est certain. Puis je te gage même que c'était écrit Guillaume Forant dessus. T'étais vraiment destiné à l'avoir.
Ils ont dû prévoir les choses d'avance avec ma femme pour lui dire « Oh, il va avoir une canne à pêche, je vais les appeler tout de suite pour qu'ils commandent ça. »
C'était arrangé. Donc, les magasins $1, c'est un bel endroit pour ça. Est-ce qu'il y en a d'autres?
D'autres endroits intéressants. C'est sûr, certains, il y a toujours les marchés aux puces. Les marchés aux puces, par contre, c'est plus pour des items plus spécialisés. On va trouver ça moins cher que d'autres endroits. Mais c'est pas donné non plus. Comme exemple, des fois, on veut trouver un chapeau de cuir. Un chapeau de cuir va peut-être coûter à cet endroit-là, tout dépendant des chapeaux, une dizaine de dollars, une quinzaine, une vingtaine. Des fois, on peut avoir des bonnes surprises pour, exemple, $5. C'est sûr, certains, par contre, c'est un budget un petit peu plus gros à ce moment-là. Mais des bonnes trouvailles à faire quand même.
On fait pas toujours des affaires d'or non plus au marché aux puces. On pense que parfois, on va sauver de l'argent pour telle chose, mais tu peux peut-être payer un chapeau de cuir 5 piastres et le cuir est très douteux. En fin de compte, c'est peut-être pas du cuir.
Effectivement, faut toujours regarder qu'est-ce qu'on a.
Si ça a l'air de du cuir, j'imagine que garde tout bon joueur de GN est satisfait avec ce qu'il a.
Effectivement, de toute façon, du cuir, du tissu, peu importe, c'est un peu, je vous dirais, l'aspect visuel qui compte. Même si le matériel n'est pas nécessairement authentique, si ça a l'air vrai, et la qualité est bonne, donc est capable d'endurer la fin de semaine ou la soirée de grande nature sous la pluie, dans la boîte, dans le bois. Pourquoi payer le gros prix pour quelque chose qui coûte moins cher, mais qui fait aussi bien le travail?
Au niveau des grandeurs nature, est-ce que les gens sont très respectueux de ça, en fin de compte, s'il y a des joueurs qui arrivent devant eux et ça a l'air un peu faux? Est-ce que ça dérange les joueurs? Est-ce que ça vient te déranger dans ce que tu joues?
Il y en a peut-être des plus hardcore qui vont être un peu choqués de voir des espèces d'armures en cuirette ou des trucs comme ça, mais je pense que la majorité des joueurs, quoi que ça dépend des grandeurs nature aussi, il y a des grandeurs nature qui sont faites, comme par exemple le Maizeray, la moyenne d'âge est peut-être 16 ans, là, je suis conservateur. Mais donc à ces endroits-là, j'imagine que ça doit être plus permissif là, justement pour la qualité là, des équipements. Tandis que si on va dans un endroit de hardcore gamer comme
Bicoline, exemple.
Bicoline, là, oublie ça, là, c'est. Effectivement. Si t'arrives avec des espadrilles, puis ils vont t'en garder croche, tu sais.
Effectivement, il y a des niveaux de grandeur nature différents. C'est sûr, certains qu'à Bicoline, où est-ce que les gens ont des armures de plaque complètes, puis ont la cote de main en dessous, t'arrives pas avec ta petite cuirette, effectivement. par contre, une armure de cuirette, il n'y a pas de trouble avec ça. C'est sûr, certains des grandeurs nature vont ajuster la protection que ça peut donner selon le matériel, mais pour l'aspect visuel, c'est pas grave à ce moment-là. C'est sûr, certain qu'une petite cuirette, c'est plus beau qu'une armure de plaque faite en duct tape. Ça peut avoir un look, mais c'est quand même pas du vrai métal.
Est-ce que tu as un autre endroit également qu'on pourrait visiter pour...
Un autre endroit où est-ce qu'on peut faire des bonnes découvertes, c'est le Village des Valeurs.
Les fameux magasins où on recycle du linge et, en fin de compte, Village des Valeurs, où il y en a plein d'autres. Là.
Effectivement, de ce genre-là. Des pantalons, je vous dirais, des cordes de roi bruns. On va payer ça 10$ là-bas, mais c'est plus beau qu'une paire de jeans en grandeur nature. Des fois, des chemises. Une chemise complètement noire, on enlève le collet et on coud les manches au bout, on met un petit bouton un petit peu plus fancy, et là, on a une chemise qui ressemble un petit peu à une chemise médiévale. On peut trouver des bourses, on prend des petites sacoches, on fait des bourses avec, on trouve des chapeaux, des bouts de fourrure pour moins cher. C'est un endroit aussi où est-ce qu'il faut fouiller beaucoup, par exemple. Et un village de valeur n'aura pas nécessairement les mêmes choses que l'autre. Oui, donc, d'aller faire le tour à ce moment-là. Ouais.
C'est bien. Alors, merci beaucoup, Guillaume, pour cet apport au niveau des GN, et on passe tout de suite en musique, François.
On va écouter une pièce des Burger Boys. Les Burger Boys, c'est un groupe de rockabilly de Québec qui a fait fureur dans les années 90 dans des sous-sols obscurs de la capitale. Et donc, c'est la pièce Cosmic Burger Patrol. Donc, patrouille des hamburgers cosmiques.
Parfait.
Vous êtes à puissance maximale. We'll be right back.
Ici votre Seigneur des Ténèbres. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale.
Wow, sur les ondes de CKIA. François, dernièrement, tu as réalisé une entrevue. C'est lorsque tu étais de passage à Green Bay, je crois.
Exactement. Donc, aux Journées ludopathiques de Green Bay, à chaque année, ils ont un invité. Souvent, c'est un Français, n'est-ce pas? Parce que les gens qui fabriquent des jeux de plateau en Europe sont avancés. Il y a des excellents créateurs là-bas. Donc, cette année, c'était Depenu de Cocktail Games qui fabrique des petits jeux qu'on trouve dans les magasins, dans des petites casiers en métal. Donc, des jeux qui s'apprennent vite, qui se jouent vite. Donc, petite entrevue avec M. Depenu qui va nous parler de l'industrie du jeu en France comparée à celle du Québec.
Alors, nous écoutons.
Cocktail Games fabrique de petits jeux qui tiennent dans la poche et dont les règles s'apprennent en quelques minutes. C'est Mathieu Depenu qui a fondé la compagnie.
Donc en fait en 97 j'ai créé Interlude. Donc Interlude c'était une société qui est spécialisée dans l'animation de séminaires d'entreprise. Voilà, et l'idée c'était d'amener en fait le jeu dans l'entreprise, surtout au moyen en fait de jeux d'adresse en bois. Donc on avait deux produits, on a un produit qui s'appelle le Ludotour, qui est un parcours d'initiation et de découverte sur des jeux en bois, donc des Mikado de 2 mètres, des jeux de curling de 6 mètres, des billards hollandais, des billards japonais. Et donc on intervient en fait dans des entreprises, dans le cadre d'événements, d'accord, donc soirées annuelles, conventions, réunions de commerciaux. Voilà, avec Ludotour, jeu en accès libre, Ludotrophy qui est un challenge en équipe. Et en fait, l'édition est venue après, mais complètement accidentellement.
Okay. Donc, vous faisiez des jeux géants à la
voilà,
région.
C'est ça. Je faisais des jeux géants et j'intervenais dans des entreprises. Et j'avais besoin de l'eau parce que j'organisais des challenges, en fait. Hein, donc, dans le cadre d'opérations, de motivation, etc.
Les patrons contre les employés, bien sûr.
Plus ou moins, en fait. Hein, c'est, okay. Voilà. Donc, pour des groupes de 30 à 50, 70, 100 personnes. Donc, j'avais aussi des activités extérieures. Et j'offrais des lots. Donc, j'achetais des jeux, mais ça me convenait jamais. Donc, je me suis dit, plutôt que d'acheter des jeux, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de créer, en fait, un premier jeu, en fait. Donc, avec mes amis Roberto Fraga et Odé Lomer, on avait une idée, en fait, derrière la tête. Un jeu qui s'appelait Contrario. Donc, on a créé, en fait, ce jeu. Et je l'ai édité. Donc, l'idée, c'était en fait, c'était d'avoir un joli jeu, donc d'où l'idée des boîtes métal. Donc, j'ai pas quitté en fait l'amour pour le métal depuis.
C'est ça, Cocktail Game, faut le dire, c'est les petits jeux qu'on trouve dans les boîtes de métal. Exactement. D'ailleurs, pourquoi c'est ce format-là?
Oh bah parce que si vous voulez, moi j'aime bien avoir des boîtes de jeux qui soient remplies, d'accord. Donc pour moi, vendre un jeu en fait où il y a beaucoup de cartons et beaucoup d'espace, c'est de l'escroquerie en fait. Donc j'aime bien en fait, voilà, que les boîtes soient pleines et que les gens en aient pour leur argent en fait. Et je trouvais que le métal c'était très valorisant en fait. Hein,
c'est... Ah c'est valorisant, c'est argent, ça.
Ouais voilà, pas. Non, c'est chouette en fait, voilà. Ça... Puis les ludothécaires en France, elles sont pas obligées de plastifier nos jeux. D'accord. Ah, donc oui. Elles nous aiment beaucoup à cause de ça en fait. Hein, ça, donc okay. Ça c'est bien. Elles aiment aussi nos jeux. Enfin, on espère en tout cas. Okay. Voilà.
Et est-ce qu'elle a peut-être l'idée aussi de la mettre dans sa poche tout simplement
Et voilà. Alors après la gamme jeux de poche, bah la gamme jeux de poche est venue. J'ai vu en fait le succès des loups-garous. Je me suis dit bah tiens ça c'est sympa en fait. Il faudrait que je fasse la même chose mais en boîte métal. À l'époque j'étais en fait distrait par des cartes donc pas par Asmodée donc j'étais un peu en situation concurrentielle. Je me suis dit pour 1 euro de plus. Je vais faire un produit vraiment concurrentiel. Je vais avoir en fait des cartes carrées dans des boîtes carrées. Et puis voilà, on a sorti comme ça. En fait, on a. Alors le problème, c'est que sur les petites boîtes, j'avais besoin d'avoir un tirage minimum de 20 000 exemplaires. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a cherché des jeux et on a signé en fait en l'espace d'un mois 10 jeux différents et on a imprimé en fait chaque jeu à 2 000 exemplaires parce que je pouvais pas prendre le risque. D'un seul jeu sur donc le premier ça a été Babylone en fait qui a été un peu un stand-alone en fait pendant quelques temps parce que c'était des tablettes en résine etc. Et puis après tous les mois ou tous les deux mois on sortait un jeu nouveau en fait mais les 10 premiers et après évidemment après j'ai pu me permettre voilà de faire des retirages d'arrêter ce qui fonctionnait pas etc.
Et sur les 20 premiers jeux, est-ce qu'ils ont tous été rentables ou est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont particulièrement démarqués?
Alors, il y a des jeux qui fonctionnent très bien. Alors, nous, on n'a pas un best-seller qui casse tout, mais on a plein de bonnes ventes, en fait. Hein. Donc voilà, je préfère, en fait, avoir un cheval, en fait, qui court pendant une grande durée, en fait, plutôt qu'avoir quelqu'un qui s'essouffle, en fait, devant l'obstacle. Mmh. Et donc, ces petits jeux, on a quelques petits succès. Donc, on a Rapide Croco, en fait, qui est un jeu d'observation et de rapidité. On a Chin Chin, qui est un jeu où il faut être champion du monde de l'apéro. Une des sorties récentes, c'est Chabirin, qui est un jeu de connexion avec des gouttières, dans cette gamme jeux de poche. Et je crois beaucoup à Rickman Boulet, qui est un jeu où on tape sur ses cuisses, en fait, en appelant des gens, en faisant des signes, etc. Donc ça a très bien démarré. Pas trop apprécié par les gamers, mais à la limite, je m'en fiche un peu. En fait. Voilà.
Qu'est-ce que vous cherchez exactement comme joueur, justement, là, vous, c'est Cocktail Game, c'est des jeux jeux rapides à expliquer. C'est peut-être des jeux qui n'est pas dédié pour les vétérans. Dans le fond, c'est peut-être plus pour les monsieur et madame tout le monde, dans le fond.
Alors, je crois que c'est un peu pour tout le monde. L'idéal, c'est d'avoir un jeu qui plaise, en fait. Si ça plaît aux gamers, c'est bien, parce que les gamers ont une capacité d'évangélisation, en fait, qui est forte, et ils peuvent, en fait, transmettre le virus. Donc, pour nous, éditeurs, c'est quand même intéressant. Voilà, si ça plaît pas, j'ai des jeux, en fait, qui sont mal notés sur les sites Internet, mais qui se vendent très bien, et inversement, en fait. Hein. Il n'y a pas de règle, si vous voulez. Ce qui est intéressant dans l'édition de jeu, c'est que c'est pas une science exacte, c'est qu'on se plante par moment, en fait. Donc moi, il faut pas que je fasse, j'ai le droit de louper un jeu sur sept, en fait, hein. C'est à peu près le ratio, en fait, hein. Enfin, si je peux. Mais vous savez, à chaque fois qu'on signe un jeu, en fait, on a toujours l'impression que c'est le meilleur qu'on ait jamais fait jusqu'à présent, en fait.
En fait, vous arrêtez de me dire que le ratio de succès de 6 sur 7, là, c'est quand même excellent.
Alors, bon, tout dépend ce qu'on appelle un succès. Le succès pour Cocktail Game, c'est pas le même succès que pour Ravensburger. C'est-à-dire, quand je vends 5000 jeux par an, c'est un succès. Pour Ravensburger ou pour Hasbro, c'est un échec retentissant. Voilà, donc, la notion de succès, elle est différente suivant la taille de l'entreprise, en fait. Mmh. Hein,
Je pense que c'est aussi très, très différent des jeux vidéo. Je sais que dans l'industrie du jeu vidéo, je pense que la majorité des jeux sont des daubes. Il y a seulement quelques minorités qui sortent un peu puis qui devient un succès. Là. Donc,
ouais, c'est vrai. mais on a de la chance que les gens soient de plus en plus curieux. C'est-à-dire les sites internet, la facilité d'information qu'on a aujourd'hui fait que les gens vont aller chercher en dehors de leur Toys R Us habituel ou de leur Carrefour. C'est la chaîne d'hypermarché en France. Voilà, et donc du coup cette curiosité c'est vraiment très bon pour toute cette industrie périphérique qui est en train de devenir importante de jeux de société et voilà, on en bénéficie à plein. Il y a un deuxième phénomène en France, c'est qu'il y a eu un changement sur le temps de travail. Et donc, depuis quelques années, les gens travaillent moins, en fait. Ils travaillent 35 heures au lieu de bosser 39 heures. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu idiot, mais ça a bénéficié à toute l'industrie de loisirs. Donc, les gens qui font du week-end court séjour, par exemple, ou des gens qui font des... Et nous, on fait des petits jeux rapides, simples, pas chers, malins. Voilà, la notion de pas cher est importante parce que dans une économie un peu difficile, en fait, on est sur cette gamme jeux de poste, sur de l'achat d'impulsion, en fait. Ça veut pas dire qu'on fait pas des bons jeux quand même, mais voilà. Et comme on fait des jeux très rapides, vous savez, les sollicitations sur les loisirs sont énormes, voilà, et les gens n'ont plus de temps, en fait. Donc quand vous faites des jeux courts, bah c'est bien, quoi, je veux dire. Si en plus ils sont pas chers, c'est encore mieux, en fait. Parce que vous savez, les machins, il y a le scooter, le téléphone portable, etc. Voilà. Et les gens peuvent pas tous payer, en fait. Okay. Mais un petit jeu, ils peuvent éventuellement, en fait.
Et justement, pour comparer la France au Canada, là, c'est, vous avez vu les deux, c'est quoi, là, exactement, est-ce que vous trouvez, par rapport à l'industrie du jeu au Québec, par rapport à celle de la France, et comment est-ce que vous diriez que...
Alors bon, c'est assez différent, Bon, déjà, en matière de distribution, au Québec, les distributeurs s'entendent pas les uns les autres. Je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est vrai. Et c'est un peu compliqué pour nous qui venons ici, où on a l'impression de marcher sur des œufs, en fait, donc c'est pas toujours très marrant. Voilà, parce que moi, j'ai pas d'ennemis ici, en fait. Hein, ensuite, alors, je trouve que les conventions de joueurs, je trouve ça formidable. D'ailleurs, bon, j'étais jamais venu sur une convention de joueurs. Les gens sont aimables, se serrent la main à la fin des parties. J'ai jamais vu ça en France.
Ah,
en fait.
Ouais.
Je trouve ça exceptionnel. Voilà, on fait la place facilement, etc. En France, le joueur français, certains joueurs français ont tendance à se prendre un peu la tête et à se prendre pour des autorités dans le domaine, en fait. Et je trouve ça un peu difficile, en fait. C'est-à-dire, c'est des semi-sommités, en fait, dans le domaine du jeu. Voilà, puis en France, il y a un phénomène, c'est je prends, je joue, je jette, en fait. Tandis que là, j'étais bluffé parce que j'ai vu des gens jouer, par exemple, à Mare Nostrum, en fait. Jouer à Mare Nostrum en France, même si le jeu a 3 ans ou 4 ans, qu'il n'est pas bien vieux, c'est ringard. Voilà. C'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir, en fait, que des jeux de 3 ans sont pas encore des vieilleries, en fait. Okay. Voilà. Après, sur la structure du marché, je pense que le marché québécois est en train de se développer, en fait, à toute vitesse. Je pense que proportionnellement, ça ira plus loin que la France, parce que j'ai l'impression, mais ça, c'est une impression extérieure, que le jeu a plus de chances d'être intégré, en fait, dans le cadre du système éducatif qu'en France, en fait. Hein. Je sais pas si c'est le cas, mais je vois plein de profs ici, etc. J'ai l'impression qu'ils utilisent, en fait, le jeu. Ça se fait un petit peu en France, mais ça va pas aussi loin. Voilà. Puis je trouve qu'il y a un bon tissu de magasins. Je trouve que le jeu se diversifie. Le fait que des libraires comme Renaud Bray, en fait, et à côté des caisses, en fait, des jeux de société, je trouve ça formidable. À la Fnac, qui est l'équivalent en fait de Renaud Bray, on n'a pas ça. Bon, il y a la FNAC Éveil et Jeux, mais les jeux sont dissociés des livres. Voilà.
C'est surprenant ce que vous dites. Dans le fond, ça voudrait dire qu'en quelque part, peut-être au Québec, le jeu de plateau serait mieux accepté qu'en France.
Alors non, le jeu de plateau fonctionne. Enfin, je suis pas spécialiste du jeu de plateau. Parce que nous, on fait des petits jeux de cartes tout simples. Mais j'ai vraiment l'impression, voilà, que le réseau de distribution du jeu au Québec, en fait, s'élargit. Il y a une deuxième chose qu'on n'a absolument pas, c'est le prix Protégez-vous, qui est quand même un truc extraordinaire. Voilà, et l'As d'or jeu de l'année est très très loin de ça, en fait. Hein. C'est-à-dire un prix qui soit organisé de manière intelligente, avec des jeux testés par des familles. Donc, je trouve ça formidable, en fait. Hein. Voilà, et avec... Alors après, on aime ou on n'aime pas les lauréats, mais je dirais, globalement, on peut dire que c'est vraiment une sélection de qualité et qui fait beaucoup de bien, en fait, aux jeux de société en général. Okay. Voilà. Donc nous... Nos jurys de jeux en fait en France c'est un peu politique en fait et puis les connexions avec les éditeurs sont trop proches. Hein, j'en bénéficie aussi en fait et je suis le premier coupable en fait de ce genre de choses et donc tandis que là je trouve que Protégez-vous en fait c'est un aspect en fait plus frais et presque plus intègre si vous voulez en fait et je trouve ça mieux. Voilà.
Qui est pas affecté par la manipulation peut-être des gens de l'industrie peut-être.
Alors, manipulation peut-être pas mais amitié et copinage en fait. Hein, okay, c'est ça. Voilà.
Un peu de népotisme.
En fait, je crois que pour sortir des bons jeux, il faut être en veille permanente. Voilà, nous, en fait, les bons jeux, ils arrivent jamais tout seuls. Il faut aller les chercher, en fait. Donc, je suis toujours à la demande, en fait, de ça. Je vois, on fait un jeu, par exemple, dans les prochaines sorties, on a un jeu qui s'appelle 22 Pommes, qui est un jeu d'un auteur catalan. Bon, ben, ça, c'est un jeu récupéré sur un festival en Espagne par Roberto Fraga, qui a trouvé que c'était en magasin. Et quand on a vu ça, on a trouvé ça terrible. Voilà. Il faut vraiment chercher, en fait, chercher les bons jeux, en fait. Hein. Bon, et comme on a une politique éditoriale assez dynamique, enfin, surtout en jeu de poche, où on va sortir entre 5 et 10 jeux par an, voilà, on est toujours à la recherche. Et là, je veux dire, il y a toujours de la place pour un bon jeu dans notre gamme, en fait. Voilà. Après, on nous dit, vous faites trop de sorties, machin, etc. Pour l'instant, ça marche pas trop mal. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi, ce qui est intéressant, c'est pas simplement les nouveautés, c'est les rééditions, en fait. Donc ça, j'adore. Voilà. Donc je vais donner deux exemples. Donc par exemple, Batin de Date, qu'on a repris, en fait, et reformaté sous le nom de Kezako et Kiproko. Bah ça, pour un éditeur, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une limitation de la prise de risque. C'est-à-dire, on est sur un jeu qui a été nominé au Spiel des Jahres, qui a une notoriété, en fait, dans le milieu spécialisé, joueurs, ludothèques, boutiques, etc. Jamais d'édition en langue française. Donc ça, c'est le bonheur total. Voilà. Et on le réédite. Et la même chose se produit, en fait, sur un jeu qu'on sort dans quelques mois, en coédition avec Istari. Kaleidos, même chose, jeu nominé au Spiel des Jahres, édition en langue française, mais on a fait, enfin, l'idée, les dessins ont beaucoup évolué. Rupture depuis 10 ans, donc ça c'est le bonheur. Et donc sur des très gros jeux, où la prise de risque est beaucoup plus importante, c'est bien de se sentir rassuré, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire sur des jeux qui sont, où soit les gens sont passés à côté, ou soit il y a eu une inadéquation entre le marché, et un jeu qui marche pas en Allemagne, un jeu de communication peut marcher en France, et inversement en fait. Hein, voilà.
Bah, écoutez, monsieur Depenoux, merci beaucoup.
Merci. À très bientôt.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
On en est déjà à la fin de l'émission sur les ondes de CKIA et on va passer à l'agenda de la semaine.
Et oui, donc, comme d'habitude, tous les vendredis, vous pouvez aller au Grandeur Nature du Jardin du Mézeray pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, c'est au Jardin du Mézeray à Québec, tous les vendredis à partir de 20h. Ou moins. Après ça, tous les mardis, évidemment, il y a les parties de Go au Café Aga. À partir de 19h, ça c'est sur le boulevard Charest. Ensuite de ça, à l'Albéry Donjon, à tous les jeudis et vendredis, on peut jouer à Magic. Samedi, on peut jouer à Warhammer Fantasy Battle ou Warhammer 40 000. Le dimanche, on peut jouer à Donjon Dragon Mini. Mercredi, on peut jouer à War Machine. Et donc sinon, le 27 septembre prochain, ça va être un Survivor de Midgard, donc l'aube du Ragnarok, un grandeur nature, un Survivor en fait, c'est une espèce de type de grandeur nature. Sinon, le 19 au 21 septembre, ça va être le GN de la crypte. Et finalement, tout à l'heure, on se dirige vers l'Abraham Martin pour les soirées puissance maximale. On va jouer à des jeux de plateau. Alors, venez nous rejoindre à partir de 6h à l'Abraham Martin.
Et oui, 18h à l'Abraham Martin, qui se situe entre la côte d'Abraham et la rue Saint-Vallier, ici à Québec, dans l'escalier, tout juste en face de la côte Sainte-Geneviève. Le temps de vous dire que vous pouvez réécouter cette émission sur Internet en allant sur le site www.petitpeuple.fr ou bien sûr en allant sur notre site www.puissance.fr. puissance maximale dans un seul mot.com. Et l'émission qui suit, c'est Homologue. Alors, messieurs, François, merci de la participation à l'émission. Même chose pour Guillaume. Et c'est Vincent Langlois qui vous dit bonne semaine. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns in the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light.